Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Chroniques de la Vieille Europe. La seule émission de la journée, et je pense même peut-être de la semaine, où nous ne parlerons pas de Nelson Mandela. Et ce n'est pas rien. Alors, autour de moi, nous retrouvons bien sûr notre ami Philippe Christel, notre consultant international. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Et d'ici quelques minutes, notre ami Pascal Essérick, le rédacteur en chef d'Éléments, mais qui doit être en retard, ou qui doit être dans les bouchons, ou coincé.
Il est en retard, ça c'est un fait.
Il est en retard.
Il doit être dans les bouchons, mais il est en retard.
Il est en retard. Ce soir, nous allons revenir un peu sur notre histoire récente qui nous a personnellement marqué en tant que jeune militant de l'époque, c'est la guerre du Kosovo. Alors juste avant de commencer de parler de ça, je voudrais juste faire une petite annonce, c'est que notre ami Emmanuel Ratier s'est fait attaquer sa librairie, la librairie Facta, qui cette nuit s'est fait casser, et on a envoyé en fait grosso modo de la peinture sur ses livres pour qu'ils soient invendables. Alors je voudrais juste faire une annonce, si vous avez des quelques cadeaux à faire, je pense que dans cette période de Noël, ça doit pas être trop compliqué. Vous allez à la librairie Facta, vous achetez un livre, même avec un peu de peinture. Je suis sûr que Emmanuel et son libraire vous fera un prix sans problème pour pouvoir l'aider dans ce genre de situation. Et on voit, on ne connaît pas les coupables, mais je suis sûr que la police de Monsieur Valls va les trouver sans trop de problèmes. On voit qu'en ce moment, les gens n'aiment pas les livres et en tout cas n'aiment pas les idées. Voilà. Donc nous allons avoir d'ici quelques minutes au téléphone Nicolas Mirkovic, qui vient de sortir aux éditions Jean Picolec, Le martyr du Kosovo. Alors un livre qui revient sur cette tragédie européenne, en résumant avec brio comment le Kosovo a été arraché à la Serbie et dont il est le cœur historique. Alors Nicolas Mirkovic, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous d'être sur l'antenne de Radio Courtoisie. Alors, avant de rentrer dans les détails de votre livre et sur la situation du Kosovo actuellement, le journaliste Jean-Louis Tremblay du Figaro Magazine, qui signe votre préface, explique très bien que le drame de cette guerre en cette fin de XXe siècle a été, en dehors, je parle des manipulations anti-serbes, l'attentat du 11 septembre a fait un peu oublier toute cette période-là et cette tragédie qui continue. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Louis Tremblay? Est-ce qu'on ne parle plus du Kosovo parce que on a fait croire que tout était réglé et que tout se passait très bien?
Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Jean-Louis Tremblay. On ne parle quasiment plus du Kosovo aujourd'hui. Et pour le quidam, la simple personne qui ne s'intéresse pas plus que ça à la géopolitique ou à l'histoire, on pense que c'est réglé, que les bombardements de 99 ont définitivement réglé le problème. On part de temps en temps d'escarmouches, mais on dit que ce sont des incidents isolés. Et là, récemment, ces dernières semaines, on a parlé beaucoup des élections. Et quand on regarde la presse locale, qu'elle soit serbe ou albanaise, ou la presse d'autres pays qui sont peut-être un peu moins guidés qu'en France, on a une toute autre opinion que celle qui est propagée en France. J'emploie le terme propagée à bon escient parce qu'on veut essayer de faire croire qu'il ne se passe plus rien au Kosovo et que le problème est réglé. Et que les problèmes sont maintenant ailleurs dans le globe, que ce soit en Libye, en Afghanistan, en Syrie.
Alors, vous avez une question de Philippe Christel.
Oui, bonsoir Nicolas Mirkovic. Peut-être qu'une des raisons pour lesquelles on pense que la situation est entre guillemets normalisée, c'est que la Serbie elle-même semble vouloir normaliser la situation. Vous parliez des élections communales qui viennent d'avoir lieu au Kosovo. C'est la première fois que ces élections ont été organisées au Kosovo et que la Serbie a annoncé qu'elle en reconnaîtrait le résultat.
Tout à fait. Là, il y a eu un revirement à 180 degrés par rapport à la position traditionnelle serbe de ces dernières années, une position qui lui a valu quand même quasiment 3 mois de bombardement en 99, et beaucoup de souffrances depuis économiques et nationales, hein, parce que la Serbie a été mise au banc des nations, et là il y a un revirement à 180 degrés. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui les sirènes de Bruxelles se font entendre tous les jours. Plus, nous sommes dans la Serbie, un pays qui a 20% de chômage, et on a une très forte pression qui est exercée par l'Union européenne et par les Américains pour contraindre les Serbes à lâcher le Kosovo et à essayer de devenir candidat à l'Union européenne. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau, d'autant plus que l'actuel président, Tomislav Nikolic, était un candidat qui pendant longtemps s'est battu pour le Kosovo serbe, à l'époque où son prédécesseur, lui, était plutôt enclin à éventuellement négocier avec Bruxelles, à lâcher le Kosovo. Nikolic, dans l'opposition, a été un fervent défenseur du Kosovo serbe et s'en est servi pour se faire élire. Et depuis qu'il est élu, il fait des courbettes et plie les chines devant l'Union européenne que même son plus grand ennemi politique n'avait jamais fait auparavant, quoi. Et ça, c'est lié à du travail de réseautage et de lobbying qui se sont faits au niveau de l'élite de la Serbie aujourd'hui et qui font que cette position a été revue et que maintenant la position de Belgrade sur le Kosovo est plus nuancée qu'il n'était avant, parce que je rappelle que la position officielle, c'est que le Kosovo ne sera jamais un pays indépendant. Donc il le martèle, mais la réalité, c'est qu'ils acceptent que les Albanais organisent les élections et ils sont en train de mettre un peu d'eau dans leur vin, malheureusement.
Alors, on va peut-être revenir sur votre livre, parce que votre livre, c'est pas simplement sur l'actualité. Vous faites un panorama du Kosovo. Alors, au départ, vous faites une différence, vous, entre le Kosovo moderne et le Kosovo historique. Quelle est cette différence?
Alors, il faut savoir que le Kosovo, c'est une dénomination qui est assez récente. Le Kosovo, l'origine du Kosovo, c'est une plaine. C'est une plaine qui est dans la partie méridionale de la Serbie, tout au sud. Donc, on est, vous avez Belgrade, vous avez en dessous la grande ville de Niš, et vous avez un peu plus bas, donc du coup, la plaine du Kosovo. Et cette plaine est connue notamment pour une bataille qui a eu lieu en 1389 entre l'Empire ottoman et la Serbie. Mais ça n'est qu'une plaine, on va dire, dans l'histoire de la Serbie ou même dans l'histoire des Balkans, on ne parle quasiment jusqu'au XIVe siècle jamais du Kosovo. Et le nom Kosovo a évolué, et un peu plus tard, je vais avancer de quelques siècles, les Ottomans s'en servent pour emploient le mot Kosovo pour dénommer un des quatre vilayettes, donc du coup c'est une espèce d'énorme préfecture ou de région de l'Empire ottoman en Roumélie. Et ensuite, donc c'est une très grande région qui n'a plus rien à voir avec la province actuelle, qui va jusqu'en Bosnie, en Macédoine. C'est une région qui est beaucoup plus grande que celle qui existe aujourd'hui. Et ensuite, on arrive en 1945, on va dire pendant la guerre, la région fait partie de la Yougoslavie. Donc là, on est d'abord dans le royaume de Yougoslavie juste avant la guerre. C'est la pointe qui est au sud de la Serbie s'appelle Kosovo et Métochie. C'est important de rappeler ça parce que cette région-là, depuis l'Empire ottoman, s'appelle le Kosovo et la Métochie. Et pourquoi c'est important de le rappeler, même si je ne le mets pas dans le titre du livre parce que ça faisait un titre un peu trop long, c'est que la Métochie, ça veut dire terre d'église. Et on y reviendra certainement tout à l'heure, mais le poids de l'église orthodoxe serbe dans cette région est très très forte et une bonne partie des terres, tout simplement, appartenaient à l'église. Et on a toujours parler de cette région de Kosovo et Métochie.
Voilà. Oui, parce que dans votre livre, ce qui est très intéressant, c'est que vous nous apprenez, parce qu'en dehors de toute la propagande qui a pu être faite à l'époque, il y a aussi une propagande intellectuelle qui s'est formée et de certains mythes. Le fait, par exemple, de dire que le Kosovo a été un moment de son histoire indépendant, que les Albanais descendraient directement des Illyriens et ouais, qu'ils auraient été chassés par la conquête serbe. Ça, c'est toute la propagande intellectuelle de l'université albanaise qui s'est mise en place et qui a été parfois très efficace.
Qui a été extrêmement efficace. Et moi, quand je discutais pas plus tard que ce week-end avec des personnes qui me tenaient les mêmes positions, je leur disais, mais donnez-moi le nom d'un seul historien renommé. Un seul, hein, je n'en demande pas plus, qui prouve que les Albanais descendent des Illyriens. Donc ça, c'est le premier point. Et quand bien même les Albanais descendraient des Illyriens, imaginons qu'un jour, on découvre des traces d'ADN ou je ne sais quoi, est-ce que vous avez le droit de réclamer une terre qui appartenait à une population qui aurait été à l'origine de la vôtre quelques milliers d'années avant, quoi, ou quelques siècles avant? Ça ne tient pas la route. Il n'y a pas de traces majeures des Illyriens au Kosovo. Et puis il n'y a pas de suite historique. Les Albanais, on en entend parler pour la première fois au XIe siècle. Le peuple albanais, pareil, si vous recherchez dans les livres d'histoire, vous n'en entendrez pas parler avant le XIe siècle. Alors que les Slaves, eux, ont migré dans les Balkans au VIe et au VIIe siècle. Donc, il y a un effort de propagande pour faire croire que le Kosovo était une ancienne terre illyrienne, que les Serbes, en arrivant, les ont chassés. Mais c'est faux. Et je vous dis, il n'y a pas cette présence tilérienne, il n'y a même pas de présence albanaise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Kosovo, si vous cherchez des vieux monuments albanais qui auraient existé avant l'arrivée des Slaves, des Serbes, vous n'en trouverez pas. Il n'y en a pas du tout. Et le mot Kosovo lui-même, hein, c'est ça ce qui est vraiment extrêmement ironique, c'est que c'est un mot d'origine serbe. Kos, ça veut dire le merle. Et Kosovo, c'est qui vient du merle. Donc le nom est serbe, le nom de toutes les villes, ou quasiment toutes les villes du Kosovo et de la Métochie aujourd'hui, sont d'origine serbe. Il n'y a pas de nom. Les Serbes, les Albanais ont albanisé ces noms. Donc Peć devient Peja, Mitrovica devient Mitrovice. Enfin, vous voyez, c'est pas une simplification quand même. On change la voyelle à la fin. Mais tout ce qu'il y a aujourd'hui au Kosovo d'historique et de culturel, à part tout ce qui est l'Antiquité, évidemment, et bien avant, et depuis le Moyen-Âge, et serbe. Et donc l'intelligentsia albanaise relayée par la nôtre a fait croire que les Albanais étaient le peuple autochtone, que le Kosovo avait toujours appartenu aux Albanais. Donc voilà, cet argument est facile à battre en brèche, parce qu'il n'y a aucun historien qui le prouve. Et surtout, je vous dis, la toponymie, les églises, les temples sur place sont tous d'origine serbe ou alors ottomane. Mais ça s'explique aussi.
Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que on s'aperçoit quand même que chez nos amis albanais, il y a une sorte de continuité, parce que sous la domination ottomane, on va voir se mettre en place une résistance, mais aussi une première migration des Serbes persécutés du Kosovo et de la Métochie, ce qui rappelle effectivement étrangement ce qui s'est passé depuis 20 ans, et que les Albanais vont se servir des Ottomans pour prendre ces terres, et on a l'impression que aujourd'hui c'est exactement la même chose. Ils se servent de l'OTAN et de l'Amérique pour récupérer ces terres et faire cette idée d'une grande Albanie.
Les Albanais se sont toujours mis sous l'aile protectrice d'un grand empire, qu'ils soient ottomans ou américains, ou même pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Albanais ont travaillé avec les Italiens. Ils n'ont jamais été tout seuls un peuple guerrier, un peuple qui est allé chasser des terres dans les Balkans. Il lui a toujours fallu un grand frère protecteur. Et aujourd'hui, c'est typiquement le cas. Ils font exactement la même chose aujourd'hui. Alors, je vais juste ouvrir une parenthèse politiquement correcte, mais je préfère le dire, parce que ça va de soi. Quand je parle d'Albanais, je ne mets pas, évidemment, tous les Albanais dans le même panier. Mais il y a quand même chez eux leur intelligentsia et leurs responsables, que ce soit en Albanie ou au Kosovo, qui vont tous dans le même sens depuis au moins le 19e siècle, voire même avant, avec les Ottomans. Donc voilà, je fais court, mais ce petit passage politiquement correct était obligé pour m'éviter d'attirer les foudres des bien-pensants. Donc les Albanais, eux, aujourd'hui, se servent des Américains pour leur programme, un programme qui est paradoxalement ultra-nationaliste. Quand on écoute les médias français, on pourrait penser que c'est le contraire, mais les Albanais sont des ultra-nationalistes dont le projet de territorial est loin d'être terminé. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. C'est pour montrer aussi que l'histoire, que ce qui se passe dans les Balkans, un peu partout, hein, que ce soit en Bosnie, mais là, typiquement, au Kosovo, c'est loin d'être réglé, puisque le projet des Albanais est de se construire une grande Albanie. Donc eux, ils disent qu'ils veulent rassembler, je parlais des quatre vilayettes ottomans tout à l'heure, où les Ottomans avaient placé les Albanais à la tête de ces vilayettes pour gouverner l'Empire hein, localement. Eh bien, les Albanais aujourd'hui, officiellement, veulent reconstruire ces vilayettes et donc se construire une Albanie qui va bien au-delà des frontières du Kosovo et de l'Albanie actuelle.
Philippe Christel a une question.
Oui, vous avez raison de dire que les Albanais se reposent largement sur un grand frère qui serait le grand frère américain. On l'a bien vu, hein, depuis les bombardements de l'OTAN, les accords de Dayton et puis quasiment toute la première décennie du 21e siècle, les États-Unis ont été le grand frère, installant une base militaire. On a vu d'ailleurs récemment au sujet de la neutralisation du stock chimique de l'arsenal chimique syrien que les États-Unis ont pensé que l'Albanie pourrait héberger la destruction. Donc on voit bien qu'il y a une logique assez colonialiste. J'ai quand même l'impression que le témoin est passé à un autre grand frère qui est la Turquie. Dans cette même édition des Chroniques de la Vieille Europe, il y a quatre semaines, j'ai eu l'occasion de mentionner les discours triomphants
l'enfant de monsieur Erdogan en visite sur le sol albanais et dans l'exaltation absolue de l'historicité de l'identité ottomane, dans des sommes considérables investies pour essayer de faire revivre des traces de ce passé glorieux. Et puis c'est vrai que les Américains se désengagent aussi de l'Europe. J'ai l'impression que le témoin est complètement passé de Washington à Ankara. Qu'en pensez-vous?
Alors je dirais pas qu'il est complètement passé, parce que la présence américaine est encore très très forte. Les Américains, l'Union européenne, c'est assez amusant. Je vais être un peu sarcastique, mais avec les révélations de WikiLeaks, on est tombé sur des câbles entre l'ambassade des États-Unis à Pristina et Bruxelles, où c'est clairement l'ambassadeur américain, qui dicte à l'Union européenne, donc qui dit qu'est-ce que vous faites avec les Serbes du Nord? Vous ne mettez pas assez de pression sur la Serbie pour qu'ils lâchent le Kosovo. Si vous ne faites pas quelque chose, nous allons intervenir. Et ça, c'est un câble de l'ambassadeur à l'Union européenne. Donc, du coup, et ça qui date d'il y a 2-3 ans. Donc, cette présence américaine est stratégique. En revanche, vous avez tout à fait raison de souligner qu'il délègue la gouvernance locale. Je pense que les Américains se retirent petit à petit. Vous parliez tout à l'heure d'un grand camp militaire, qui est le camp de Bond Steel. Les Américains ont parlé, il y a quelques années, très clairement, d'en donner la gestion aux Turcs. Et il y a une politique qu'on peut appeler une politique néo-ottomane, et ce que vous avez cité il y a quelques semaines est tout à fait vrai, où les Turcs ont compris qu'ils avaient là une opportunité unique de se reconstituer un empire. Et non seulement ils l'ont compris, mais ils agissent. Erdogan en visite dans les Balkans, c'est d'abord une visite à tous les grands lieux de l'Empire ottoman, que ce soit la tombe du sultan Murad Ier, que ce soit la mosquée impériale de Pristina. C'est la même chose quand il va en Bosnie. Hein. Quand il va en Bosnie, Erdogan dit qu'il est chez lui en Bosnie comme il est en Turquie. Il dira la même chose quand il est à Pristina au Kosovo. Et cette stratégie néo-ottomane qui est développée par Davutoglu, qui est le ministre des Affaires étrangères turc, est une politique qui est officielle. Hein. Alors ils disent non, c'est pas tout à fait officiel, mais si vous regardez les principaux investisseurs dans les Balkans, à part les très grandes puissances économiques, évidemment comme l'Allemagne ou encore un peu comme les Américains, tout de suite derrière, vous trouvez la Turquie qui est le troisième ou quatrième investisseur en Bosnie. Vous regardez les grandes infrastructures construites aujourd'hui au Kosovo, qui est derrière, très souvent les Turcs et parfois même avec les Américains. Et les grands gagnants économiques de la guerre sont clairement les Américains, les Turcs et les Allemands. Et on parle en Bosnie d'une diagonale, dans l'ex-Yougoslavie, d'une diagonale verte. Et cette diagonale verte, c'est vraiment une diagonale que suit Istanbul aujourd'hui pour essayer de se constituer un protectorat dans ce qui sont les reliquats de son ancien empire et qui a beaucoup de succès, que ce soit auprès des Albanais, qui envoient donc la venue d'un ancien frère protecteur, ou même des Bosniaques musulmans. Et il y a derrière ça des intérêts économiques, mais géopolitiques, tout à fait évident, et la Turquie s'en sert parce qu'elle ne sait pas du tout demain vers où son cœur va balancer. Est-ce que c'est vers l'Union européenne? Est-ce que c'est par une union de frontières indépendante ou est-ce que c'est en rassemblant tous les Turcs un peu éparpillés en Asie? Et elle a très clairement une vision géopolitique de domination dans les Balkans.
Dans votre livre, Nicolas Mirkovic, vous rappelez le très très bien le piège de Rambouillet, hein, où les Serbes ne pouvaient pas admettre ces traités que les Américains et ses alliés étaient en train d'essayer de leur faire signer. Il y avait un grand absent à Rambouillet. Est-ce que, sans faire de l'Uchronie, ce grand absent c'était les Russes? Il faut dire qu'à l'époque, ils n'avaient pas Vladimir Poutine à sa tête. Est-ce que vous pensez que les Russes aujourd'hui voient un intérêt sur le Kosovo ou ont décidé d'abandonner les Serbes voyant que les Américains ont dominé la situation?
Si vous me permettez, avant de répondre,
oui,
je voudrais compléter, puisque ça recouvre une question que je voulais poser. Et je pense que nos auditeurs se souviennent que le 12 juin 99, on est à la fin de la campagne des bombardements de l'OTAN, et de manière totalement inopinée, on a une brigade motorisée russe qui arrive de Bosnie Bosnie et qui est accueilli par comme des libérateurs par les 30 000 Serbes qui vivent à Pristina. Et ces Serbes de Pristina venaient d'être quasiment abandonnés par Milosevic, qui n'avait pas tellement le choix d'ailleurs. Et puis en fait, la pression a été telle que cette faible Russie de Boris Yeltsin de l'époque n'a pas pu s'imposer et a dû faire demi-tour. Aujourd'hui, quand on voit l'activité, effectivement, de la Russie sur la scène internationale, sur la question iranienne, sur la question syrienne, et le coup majeur qui vient d'être réalisé au sujet de l'Ukraine, et on en parlera dans quelques instants, on se doute que telle situation ne serait pas possible. Pour autant, y a-t-il un activisme ou un contre-activisme russe aujourd'hui dans ce qui reste du Kosovo serbe?
Nicolas Mirkovic.
Les Russes ont clairement envie et ont des projets pour les Balkans et pour l'accès aux mers chaudes. La mer Adriatique, c'est quand même important. En Serbie, ce que disent les Russes, c'est ce que l'ambassadeur russe a dit il y a quelques jours et qui a créé un tollé à Belgrade. C'est, lui dit, on ne peut pas être plus serbe que les Serbes. C'est-à-dire que les Russes disent officiellement aujourd'hui, ne lâchez pas le Kosovo. Vous avez le droit international avec vous, la résolution 1244 de l'ONU est toujours en vigueur. Il y a à peu près la moitié des pays de membres de l'ONU qui reconnaît l'indépendance du Kosovo. Et en France, on parle du Kosovo comme un pays indépendant de fait. Mais il faut savoir qu'en Union européenne, l'Espagne ne reconnaît pas le Kosovo, la Slovaquie ne reconnaît pas le Kosovo, la Chine, l'Inde, le Brésil ne reconnaissent pas le Kosovo. Ça fait quand même beaucoup de monde, et pas des moindres, qui ne reconnaissent pas le Kosovo. Alors les Russes disent, battez-vous au niveau du droit international derrière la résolution 1244. Et ils poussent. En effet, cette position-là. Il y a eu la construction qui a été commencée récemment du fameux pipeline South Stream qui va amener beaucoup de bien à la Serbie. Et les Russes, ils ont aussi besoin de protéger cet actif. Ils peuvent pas laisser le canal qui va apporter tout ce gaz en Europe à des mains traîtres, à des mains qui seraient liées à l'OTAN, aux États-Unis. Donc les Russes ont un intérêt géostratégique pour protéger cet actif, et aussi la Serbie reste un pays frère. Donc du coup, c'est normal que le grand frère le toque un peu sur l'épaule en lui disant, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, aller discuter avec l'OTAN ou à te précipiter dans les bras de l'Union européenne. Donc malheureusement, pour beaucoup de Serbes, on aimerait que les Russes soient encore plus présents. C'est un sujet délicat, mais on sait qu'il y a pas mal de travail qui est fait en coulisses de la part de la Russie pour rappeler qu'en aucun cas est-ce que les Serbes pourraient se ruer dans les bras ni de l'OTAN ni de l'Union européenne.
Oui, par parenthèse, les auditeurs fidèles de notre émission auront recollé les morceaux entre ce fameux South Stream que vous décrivez, que la Russie a habilement mené au bout, tuant ainsi le fameux projet Nabucco qui avait vocation à contourner justement l'espace russe. Fermez la parenthèse.
Alors, dans votre livre, Nicolas Mirkovic, vous rappelez, et c'est toujours bien de revoir ça des années plus tard, vous redonnez les multiples exemples de propagande contre la Serbie, alors qu'on connaît très bien autour de cette table, mais en les relisant sous votre plume, on se remémore ces immenses mensonges de l'époque. Alors j'en prends un au hasard pour les auditeurs peut-être plus jeunes qui n'ont pas connu. Vous rappelez une campagne de Médecins sans frontières qui a dépensé 1,5 million d'euros pour une campagne publicitaire affichant une photo qui reprenait un mirador d'Auschwitz et des prisonniers dans un camp serbe, affirmant que c'était un camp d'extermination. Vous expliquez même que en 2004, Bernard Kouchner va expliquer qu'il a menti sur pas mal de choses pour précipiter cette guerre. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, à l'heure d'Internet, à l'heure d'une communication qui est peut-être plus rapide qu'à l'époque, ces mensonges passeraient aussi facilement?
Non. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne serait plus possible. Ou moins possible, parce que de plus en plus de personnes se renseignent, et j'ai juste envie de parler de ce qu'on a vu récemment en Syrie, où on a clairement vu les exactions des miliciens de la liberté. On a vu ces exactions où on décapite des prêtres, où on tire sur la foule, où on a des comportements de barbares. Et les miliciens de la liberté, leur image devient un peu ternie quand vous rentrez le soir et que vous avez votre collègue du bureau ou un voisin ou quelqu'un de votre famille qui vous envoie des images de massacres et de gens décapités. C'est exactement la même chose qui se passait au moment de la guerre du Kosovo en 1999. mais il n'y avait pas accès à ces images-là. Mais il n'y avait pas autant de radio ou de blogs internet qui relayaient l'information. Chacun des mensonges aurait été démystifié dans l'heure par des centaines de personnes qui l'auraient relayé et ça aurait fait un buzz qui aurait mis à mal les propagateurs de ces mensonges. On a quand même pendant ce conflit des ministres qui parlent de génocide au Kosovo. On a Rudolf Scharping, qui est le ministre social-démocrate allemand de la Défense, qui invente un camp de concentration. Il dit que le stade de foot de Pristina a été transformé en camp de concentration. Voilà, il le dit. Aujourd'hui, quelqu'un aurait pris avec son téléphone, aurait pris quelques photos et aurait montré que voilà, c'est pas du tout un camp de concentration. À l'époque, ça passe. Et dans la presse allemande, tout dit « Ah, mais c'est horrible, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont ouvert un camp de concentration. Voyez-vous, on peut pas faire ça. » Et ils ont inventé des plans qui étaient complètement fantasmagoriques. Et c'est ce qui est grave là-dedans, c'est que ces mensonges ont été colportés au sommet de l'État. Massimo D'Alema, Bill Clinton, Jacques Chirac, tous ont répercuté des mensonges qu'on aurait pu, à l'époque, je vous dis, démystifier sans aucun problème avec les moyens modernes de technologie. Alors oui, malheureusement pour le Kosovo, Internet et Poutine arrivent un peu tard, mais aujourd'hui, heureusement, grâce à l'Internet, on est capable de relayer de l'information. On peut suivre au jour le jour les exactions commises contre les Serbes. Ce n'est pas enfui et vous pouvez trouver cette information très facilement sur Internet, avec le relais de gens qui sont sur place, donc du coup qui sont témoins de l'information.
Je crois effectivement que dans votre chapitre 3, justement, vous décrivez tout ce qui est manipulation de l'opinion mondiale et en cela, on retrouve effectivement les mêmes vieilles ficelles qu'on connaît depuis l'Irak, qu'on a vu en Syrie et qu'on verra demain certainement ailleurs. Moi, je voudrais dire, plutôt m'adresser aux auditeurs, j'ai été assez touché par votre livre et je pense qu'il y a trois bonnes raisons pour acheter votre livre et je voudrais les partager avec les auditeurs. La première, c'est que effectivement, sur la partie analyse, construction de la manipulation, vous reprenez ce qui a déjà, c'est assez bien synthétisé, il y a beaucoup de références, mais j'ai envie de dire, la nouveauté n'est pas là. La véritable nouveauté, c'est que vous décrivez précisément ce qui se passe au Kosovo depuis l'agression et l'occupation de l'OTAN. C'est-à-dire que depuis que le conflit est, entre parenthèses, terminé. Vous nous expliquez d'ailleurs en quoi il n'est pas terminé, mais depuis que pour la grande presse et pour le grand public, ce conflit est terminé, vous racontez ce Kosovo-là. Et ça, je pense que ça, c'est une vraie nouveauté dans ce qu'on peut lire ici ou là sur le sujet. Le deuxième élément, et je voudrais que vous nous en disiez quelques mots, c'est que vous proposez des solutions. Et vous avez conscience de la dimension relativement inextricable des choses et vous proposez des solutions et ce serait intéressant que vous nous les synthétisiez très rapidement. Le troisième élément que je voudrais citer avant que vous répondiez, c'est que c'est un livre qui est une véritable étude, mais vous êtes aussi un homme de terrain. Parce que les populations et les enfants serbes du Kosovo, vous connaissez. L'action humanitaire, qui est pas celle qu'on voit partout sur les cartes de vœux de l'UNICEF, vous connaissez. Et donc, vous avez à la fois, je pense, le talent de connecter ce que vous voyez à ce que vous écrivez, mais vous allez vivre également pour le bénéfice des populations, d'essayer de redresser ces injustices que vous décrivez dans le livre. Et ça, je pense que c'est une autre raison tout à fait valable d'acheter votre bouquin. Mais ce que je vous propose, c'est peut-être de nous synthétiser rapidement une ou plusieurs des propositions de solutions que vous ébauchez.
Alors, j'essaie de voir pratiquement, dans l'histoire des peuples, des guerres, qu'est-ce qu'on pourrait appliquer au Kosovo. L'hypothèse la plus simple, et on va dire celle que voudrait l'Union européenne, c'est que les Serbes lâchent le Kosovo en disant, voilà, c'est fini, vous ne représentez plus que 6% de la population sur ces terres, oui, c'est peut-être le berceau de votre culture, mais c'est pas grave, vous en trouverez un autre, et vous lâchez le Kosovo, vous rentrez dans l'Union européenne. Le problème, c'est que si on accepte ça, ça veut dire qu'on s'assoit sur une bonne partie des éléments qui ont fondé notre civilisation, en tout cas européenne. C'est-à-dire qu'on s'assoit sur le droit, on s'assoit sur la justice. On accepte que les assassins d'hier deviennent les présidents et les élus de demain. Et ça veut dire, très clairement pour le peuple serbe, qu'il accepte que son bourreau dicte tout ce qu'il a à faire sur sa propre terre, sachant que quand vous rentrez dans l'histoire du Kosovo, ce que cela veut dire, c'est clairement la disparition du peuple serbe du Kosovo. Alors, si je vais jusqu'au bout de cette idée vite fait, j'ai dit d'accord, bah, si on suit cette logique, concrètement, le Kosovo devient 100% albanais à moyen terme, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'histoire ne se termine pas là, puisque le projet albanais n'est pas juste d'annexer le Kosovo, il est également d'annexer un tiers de la Macédoine, 20% du Monténégro et la partie septentrionale, ou une partie, en tout cas, de la Grèce. Donc, la guerre va se poursuivre. Et donc, le but, évidemment, est d'éviter la guerre, ou en tout cas, d'éviter cette guerre-là. Donc, cette hypothèse n'est pas possible. Deuxième hypothèse, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut faire une union des mairies ou des localités où il existe encore des Serbes avec une implication de Belgrade. C'est ce que fait Belgrade aujourd'hui. C'est un des points du programme de Datisari, qui était un des représentants de l'ONU, qui a ourdi ce plan, qui est un plan où les Serbes vont vivoter sur place officiellement, et je pense qu'ils seraient protégés. Mais là, pareil, pour les mêmes raisons, vous asseyez sur le droit, et sur le droit qui, pour moi, est fondamental d'un peuple, de vivre sur sa terre. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est juste au niveau politique, au niveau moral, que quelqu'un vienne vous voler votre terre et ensuite vous laisse une cabane? Et vous devez vous justifier de la cabane en disant, bah, tout compte fait, c'est vrai que c'est pas plus mal, il vaut mieux être dans la cabane que d'être dans le cimetière, dans la tombe. Et si vous acceptez ça, alors il faut accepter, en effet, qu'il y ait une espèce de d'association des municipalités pour survivre, pas pour vivre. Il y a deux autres points. Il y a un point qui est évidemment plus délicat, et qui est une réponse évidente, et je pense que à d'autres époques, on aurait répondu cela en premier, c'est la guerre. C'est la guerre. Moi, je pense que les Balkans restent une poudrière et que ça peut encore exploser. Si ça va encore exploser, il vaut mieux tenir le bâton que d'être à l'autre bout. Et si vraiment on veut arrêter l'expansion des Albanais dans les Balkans, il va falloir que quelqu'un mette un haut là. Alors évidemment, je ne suis pas un va-t-en-guerre. Je ne suis pas en train de dire sortons les âmes, boutons les Albanais en dehors du Kosovo. Mais je dis c'est une hypothèse à laquelle il faut réfléchir très sérieusement, puisque le projet politique du voisin est de conquérir d'autres parties de votre terre et de la terre de vos voisins. Donc il va falloir faire quelque chose, parce que le jour où les Albanais deviendront, et qui ont une démographie très forte, extrêmement forte, deviendront un des pays les plus importants des Balkans, ça va changer radicalement le visage des Balkans, sachant que les Albanais, bon, c'est un peuple différent, mais c'est un peuple qui est majoritairement musulman et qui est en train de se radicaliser. Également, vous parliez tout à l'heure de la stratégie turque. Évidemment, le vecteur principal, évidemment, est pour partie historique, mais l'autre partie religieux. Et il y a une envie de conquête dans le Dar al-Islam des Balkans, et de refaire des Balkans un protectorat ou des pays musulmans. Donc, est-ce que c'est ça ce que vous voulez, ou est-ce que vous voulez le stopper? Il faut penser à la guerre. Je ne dis pas qu'aujourd'hui la Serbie, on a les moyens, elle ne les a pas. Je dis juste qu'il faut réfléchir à comment éventuellement envisager cette hypothèse lorsque des conditions propices seront réunies. C'est un sujet évidemment délicat. Je ne dis pas que c'est quelque chose de court terme, je ne dis pas que c'est l'idéal, mais je dis que si on vous a volé quelque chose, le droit veut que vous le récupériez. Ça, c'est le deuxième point. Maintenant, il y a une autre possibilité, qui est la relocalisation des populations. C'est quelque chose qui peut sonner un peu creux ou bizarre dans les oreilles de pas mal de contemporains, parce qu'on pense que cela n'existe pas. Cela a existé.
Sorte d'épuration ethnique à l'envers.
Oui, on va dire oui. On peut voir ça. C'est en partant du principe que chaque peuple a droit à une terre, qu'à partir du moment où un peuple déborde sur les terres du voisin, peut-être que pour justement éviter cette troisième hypothèse de la guerre, l'idéal serait quand même de dire à chacun: on rentre chez soi, on sécurise les frontières. Ça ne veut pas dire mettre des barbelés, des miradors tous les 10 mètres, loin de là. Mais c'est juste de dire, voilà, si on veut vivre en paix, comme on connaît le coin, eh bien, chacun vit chez soi et on vit heureux comme ça. Et c'est une possibilité. Donc, en quoi cela consiste? Cela consiste à inviter, évidemment, les Albanais à rentrer dans leur pays, qui est l'Albanie. Pareil, je suis tout à fait conscient que c'est une solution qui ne peut pas se faire avec un coup de baguette magique. Mais si les conditions sont réunies, si les Américains sont plus là, si tout le monde se met autour de la table, et quand je dis tout le monde, et c'est évidemment l'ensemble des Balkans, et on va dire là pour quelques grandes puissances internationales. Et j'aimerais bien, je pense notamment à la Russie, mais peut-être d'autres acteurs qui sont plus neutres, qu'on ne voit pas, qui pourraient être par exemple la Chine ou l'Inde, qui sont des très grands acteurs, et qui pourraient être neutres là-dedans, et avoir leur poids pour un peu forcer tout le monde à rentrer dans l'ordre. Cela serait possible avec, évidemment, dans des conditions humanitaires dignes. Et pourquoi est-ce qu'on pourrait faire cela? C'est pour éviter une guerre. Si on est convaincu que les Balkans sont une poudrière, on a intérêt, on a le devoir même de trouver toutes les solutions pacifiques. Et il vaut mieux cette solution-là qui peut être dure, et j'imagine très bien que l'Albanais qui aime sincèrement sa terre au Kosovo ne comprendra pas pourquoi il faudrait qu'il rentre chez lui. Ça, je peux le comprendre. D'un autre côté, il vaut mieux encore qu'il rentre chez lui, ou majoritairement il rentre chez eux, et qu'il y ait la paix dans les Balkans. Et il faut savoir qu'en dans le monde, chaque année, il y a plus de 40 millions de personnes qui sont déplacées. On déplace des personnes, évidemment, dans les zones de guerre, mais on déplace également les personnes pour construire des autoroutes, pour construire des barrages, pour construire des centrales nucléaires. Alors, si on est capable de déplacer des populations pour des raisons purement économiques, je pense que c'est une bonne idée ou une option de vouloir les déplacer pour des raisons pacifiques et salutaires. Parce que si la guerre explose dans les Balkans, ça va vraiment être terrible. Hein. Donc il faut tout faire pour éviter ça. Ce sont des pistes. Je n'ai pas donné des préférences. Je pense que ça ne transparaît pas forcément dans le livre. Je dis qu'il faut les explorer parce que il faut trouver des solutions rapidement.
Alors, vous avez une question de Pascal Essérick.
Oui, bonsoir. Est-ce qu'il y a en Albanie des partis, est-ce que l'Albanie est un bloc et est-ce qu'il y a des points d'appui à votre discours? Est-ce qu'il y a des partis avec lesquels il peut y avoir des alliances politiques ou pas du tout?
Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, pour la simple et bonne raison que le projet politique, hein, je le redis, est vraiment de se reconstituer une grande Albanie. Si vous allez dans les pays que je mentionnais, qui sont la Macédoine ou le Monténégro, vous ne voyez pas le drapeau des Albanais du Monténégro. Vous voyez le drapeau albanais. Si vous allez, du reste, si vous allez au Kosovo, vous ne verrez quasiment pas de drapeau du Kosovo. Oui, il est moche, c'est vrai, mais vous le verrez. Je ne pense pas que c'est pour ça qu'il ne sort pas. Il ne sort pas.
Non, je ne pense pas, non, quand même.
Ils ne sortent pas parce qu'ils sortent le drapeau albanais, parce qu'ils sont albanais. Et je les comprends, je ne suis pas en train de dire rangez votre drapeau albanais. Ils se sentent purement albanais. Ils sont de langue albanaise, de culture albanaise. Et que vous alliez à Tirana ou Pristina, vous allez retrouver des peuples qui sont tout à fait, enfin, que vous allez trouver le même peuple. Et Saliram Berisha, qui est l'ancien premier ministre albanais, dit que l'Albanais doit se sentir le même à Pristina et à Tirana. Il le disait parce qu'ils évoquaient éventuellement d'avoir des services consulaires ou des ambassades en commun. Edi Rama, qui est le premier ministre actuel, le nouveau premier ministre albanais, lui dit que il faut pas qu'il y ait de frontière entre le Kosovo et l'Albanie. Donc, si vous voulez, ce sont des choses qui sont ouvertes, qui sont claires, et ils vont le faire. C'est leur projet. Alors, la constitution du Kosovo dit aujourd'hui qu'ils n'ont pas le droit de le faire, mais ça n'empêche pas d'avoir ces premiers ministres dont je vous parlais qui poussent. Donc, c'est sûr et certain qu'il y aurait un frein côté albanais. Pour que le projet de relocalisation se passe bien, il faudra évidemment qu'il y ait un grand travail de communication pour faire comprendre que cette situation-là est meilleure qu'une situation de guerre. Donc, je suis même prêt à concevoir qu'il y a peut-être même des concessions à faire au niveau de la terre. Peut-être que la Serbie, elle aussi, qui n'a pas eu la politique démographique qu'il fallait, peut donner une partie des terres pour que cela se passe mieux. Certainement pas les terres où il y a des monastères ou qui sont des hauts lieux de la culture serbe. Il faut l'envisager. Mais je pense que c'est une piste de moyen terme à laquelle il faut réfléchir. Et évidemment, il faut négocier, parler avec les Albanais. Le but n'est pas de mettre les Albanais au banc des Balkans. L'idée, c'est de faire en sorte que les Balkans ne deviennent pas albanais. Donc, quitte à choisir son camp, il faut prévoir toutes les mesures possibles pour éviter des bains de sang qui sont quand même fréquents dans les Balkans.
Alors, vous êtes sur Radio Courtoisie. Nous recevons dans les chroniques de la vie Europe Nicolas Mirković pour le martyr du Kosovo. Et je crois que Pascal Essérick voulait
Oui, poser une dernière question qui prolonge celle que je vous ai posée. C'est la recherche d'alliés régionaux probables. Que penser des pays comme la Macédoine, comme la Grèce? Dans cette et recherche de
pas la Croatie tant que vous y êtes, mais arrêtez de provoquer notre invité.
Écoutez, moi, c'est avec eux que ça va se passer. Il faut que ça se passe. Il faut. Je parlais tout à l'heure d'un grand frère. J'ai dit la Chine parce que du coup, c'est sympa.
Oui, parce que la Chine, c'est quand même assez lointain. L'Inde aussi.
c'est lointain et c'était pas forcément. Je disais qu'il fallait qu'il discute avec une grande puissance étrangère qui soit un peu neutre dans l'affaire. Si vous faites venir dans la discussion l'Allemagne, la France ou la Russie, ces trois puissances ont des intérêts géopolitiques immédiats. Donc c'est un peu plus difficile de faire entrer de mettre en place ce projet. L'idée, c'est d'avoir un grand acteur qui a un poids international, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est pour ça que je pensais à la Chine, qui soit indépendant. Mais non, bon, c'est une hypothèse. Là, il faudra de toute manière discuter avec les autres pays. Le problème, c'est qu'actuellement, le gouvernement de la plupart des pays que vous évoquez n'est pas dans ces pays, mais est à Bruxelles. Et que les ordres viennent de Bruxelles. Et qu'aucun pays, aujourd'hui, ne va risquer une discussion sur ce sujet-là. Et le problème albanais, puisqu'il faut l'appeler comme ça, tant qu'il y a l'Union européenne, parce que c'est pas du tout dans les projets de l'Union européenne. Mais si l'Union européenne perd de sa superbe dans les Balkans, si les Américains se retirent des Balkans, les acteurs locaux doivent se prendre en main. Je pense qu'il faut quand même qu'il y ait quelques grands pays pour éviter justement que cela se transforme en guerre, parce qu'on va se retrouver autour d'une table, une première discussion, puis la discussion d'après, tout le monde va venir avec ses couteaux et ses mitraillettes, quoi. Donc autant avoir des grandes institutions. Si on faisait un peu plus confiance dans l'ONU, on pourrait dire ça pourrait se passer sous l'égide de l'ONU. Je pense que l'ordre de Malte ferait peut-être un meilleur travail, mais il faut que ça se fasse dans des conditions de discussion et de raison. Et ça, il faut qu'il y ait quand même des grandes instances et des grands pays derrière pour assurer cela.
Alors, moi, j'aurais juste une dernière question parce que vous abordez un chapitre qui me paraît quand même très important. C'est le Kosovo, enfin le Kosovo d'aujourd'hui. Et ce Kosovo, vous êtes en train de dire que un peu comme en Afghanistan, ça devient, je veux dire, premièrement un État mafieux. Et vous donnez les chiffres. Hein, le chiffre d'affaires de la drogue est de 3 milliards de dollars, avec sur place 50 000 soldats de l'OTAN. Donc, ça prouve que je ne sais pas si c'est grâce aux soldats de l'OTAN ou qui sont inefficaces. Mais enfin, ça va poser quand même un sacré problème au reste de l'Europe dans l'avenir.
Mais c'est un problème majeur. C'est pour ça que je dis que ce problème doit être réglé, parce que c'est pas juste la constitution d'un État. C'est un État qui a une volonté géopolitique. Enfin, c'est un peuple, en tout cas, qui a une volonté géopolitique. Et c'est la plaque tournante de la drogue. Vous parlez de 3 milliards d'euros, mais c'est quasiment la moitié du PIB du Kosovo. Donc, du coup, il faut quand même faire quelque chose. Comment est-ce qu'on peut expliquer rationnellement que l'Union européenne, que les Américains, que l'OTAN se déploient avec autant de personnes sur place, avec quasiment un juge, un policier pour 1000 habitants, d'accord, et que ça soit la plaque tournante de la drogue en Europe, avec surtout la plaque tournante d'une drogue qui est néfaste, qui tue des dizaines de milliers d'Européens et de jeunes dans le monde entier chaque année, qui est la drogue de l'héroïne. Comment est-ce que c'est possible qu'il y ait autant de gendarmes, de juges, et qu'ils ne voient rien? Je n'y crois pas. Je n'y crois absolument pas. Et je fais un parallèle dans le livre avec l'Afghanistan. L'Afghanistan, quand l'OTAN est arrivé après les bombardements du 11 septembre, les attentats du 11 septembre, eh bien, il y avait quasiment plus de culture du pavot, parce que les talibans, je suis pas particulièrement un fan des talibans, mais les talibans l'avaient quasiment éradiqué. Aujourd'hui, l'Afghanistan est de loin le premier producteur mondial d'opium qui sert à faire l'héroïne. Comment est-ce que c'est possible quand vous pensez qu'il y a plus de 120 000 soldats de l'OTAN, plus quelques 20-30 000 soldats mercenaires indépendants? Ça n'est pas possible. Et je pense, sans vouloir rentrer dans des théories du complot, qu'il y a une volonté de laisser faire. Alors, ou alors c'est une volonté laxiste de se dire, de toute manière, il vaut mieux qu'ils vivent de quelque chose, on n'a plus de subventions à leur donner, donc autant qu'ils cultivent, qu'ils trafiquent la drogue, au moins ça fait vivre les foyers. Hypothèse laxiste, hypothèse plus sournoise, laissons-les faire. Laissons-les faire. Du reste, il y a un ministre russe dont le nom m'échappe et qui l'a dit il y a un an, en disant que lui, il dit que c'est une guerre par rapport à la culture du pavot en Afghanistan. Il dit que c'est une guerre non déclarée ou subversive contre la Russie, parce qu'il y a 30 000 Russes qui meurent chaque année d'overdose de l'héroïne. Et je penche plutôt pour cette deuxième hypothèse, où ça peut arranger certains États dans le monde, notamment les Américains, qu'il y a un problème de drogue en Europe. Et, parce que sinon, c'est pas possible. Vous n'allez pas me faire croire qu'il y ait autant de militaires et qu'on laisse ce trafic se faire. Il y a des centaines de camions, des milliers de camions qui circulent dans les Balkans chaque jour. Si vous n'êtes pas capable, au niveau de la plaque tournante, de les intercepter avec autant d'hommes, c'est que vous êtes vraiment très, très mauvais, ou alors vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire.
Merci à vous, Nicolas Mirkovic. Je pense que on va redonner les références de votre livre. C'est Le Martyr du Kosovo, avec une très belle préface de Jean-Louis Tremblay, qui est grand reporter au Figaro Magazine et qui connaît bien aussi cette région-là. Donc c'est aux éditions Jean Picolec. Juste pour la fin, vous êtes aussi engagé dans les organisations humanitaires en ce moment. Vous êtes sur quoi?
Oui, alors aujourd'hui, je suis aussi membre de l'association Solidarité Kosovo. Donc du coup, aujourd'hui, on est en train de restaurer plusieurs écoles sur place. On a un partenariat qui est très fort avec l'évêché serbe, donc de Raška Prizrene. Et donc du coup, on identifie avec les Serbes sur place quels sont les villages et les villes où on peut intervenir, et on leur apporte apporte des vêtements ou du matériel scolaire. Mais aussi, on finance, et c'est surtout ça qui est important, des projets où on va donner du travail aux Serbes sur place. Parce que ce qu'il faut, c'est que, on peut parler du Kosovo pendant des heures. S'il n'y a plus de Serbes sur place, ça va franchement devenir très difficile pour mettre en place une quelconque politique de repeuplement du Kosovo. Donc ce qu'on finance, ce sont des projets de reconstruction des écoles. Là, on est en train de mettre du chauffage dans différentes écoles, on est en train de refaire les murs, on emploie des ouvriers serbes, et où évidemment, à la fin de la journée, les enfants ont des écoles où il y a la chaleur, où ils ont envie de rester sur place, ils n'ont pas envie d'émigrer. Et donc du coup, on est là-dessus, et on va bientôt entamer notre grande mission traditionnelle de Noël, où chaque année, nous sillonnons le Kosovo d'enclave en enclave, en apportant des jouets, un peu de chaleur et de réconfort aux Serbes, essentiellement aux enfants, en leur disant « vous n'êtes pas seuls, voici quelques cadeaux ». Et on se souvient aussi qu'il y a un lien historique entre les peuples serbes et français, et on veut maintenir la flamme vivante et cette chaleur. Et ce sont les Serbes eux-mêmes qui nous lisent, cette chaleur les réchauffe presque même encore plus que les vêtements, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas abandonnés. C'est vraiment ça le but de Solidarité Kosovo, c'est de leur montrer, de montrer aux Serbes qu'ils ne sont pas abandonnés et que les seuls combats qu'on perd sont ceux qu'on ne mène pas.
Écoutez, merci beaucoup Nicolas Mirkovic, et puis on demande à tous les auditeurs à Noël, vous achetez ce livre, c'est 200 pages et vous aurez exactement tout ce qui s'est passé. C'est là-dessus peut-être l'un des meilleurs résumés pour connaître cette région d'Europe. On va faire juste une légère pause musicale, puis on va retrouver bien sûr l'actualité européenne avec Philippe Christel. Alors, de retour pour cette deuxième partie des Chroniques de la Vieille Europe, après avoir reçu Nicolas Mirkovic pour Le Martyr du Kosovo aux éditions Jean Picolec, on va passer à l'actualité européenne. Et je crois, mon cher Philippe, qu'il y a eu pas mal d'élections. Enfin, je ne sais pas si vous commencez par ça, mais il y a eu beaucoup d'élections ce mois-ci en Europe.
Oui, mais je propose de rester dans le monde slave pour décrypter très modestement un certain nombre des soubresauts auquel on a assisté autour de l'affaire ukrainienne. Vous vous souvenez, quand on s'est vu il y a 4 semaines, les auditeurs, vous et nous, nous nous sommes dit qu'on s'acheminait tranquillement vers l'hypothèse de cette signature ou non par l'Ukraine du fameux partenariat préparé à Vilnius. J'avais essayé de vous décrire quelles étaient les tendances, comme on dit, et je crois que les auditeurs n'ont pas pu être déçus de constater que, effectivement, l'Ukraine a choisi de ne pas signer cet accord de partenariat. Alors, on a vu passer toutes les analyses les plus subtiles de la presse française sur le thème « les Ukrainiens sont achetés par les Russes ». Ce qui était drôle, c'est quelques jours avant, le président ukrainien avait passé 5 heures à Sotchi avec Vladimir Poutine, et les journalistes français, qui sont plus intelligents que tout le monde et qui savent pas que les Russes jouent aux échecs, avaient trouvé quand même que Poutine avait un peu fait la tête en sortie de réunion, et donc visiblement, il n'avait pas réussi à avoir Yanukovych. Bon, on a vu le
le résultat. L'Ukraine est aujourd'hui, ne crions pas victoire, moi je pense que c'est une victoire, mais ne crions pas victoire complètement, puisque l'Ukraine est aujourd'hui en proie aux mêmes agitations que celles de la Révolution Orange. Les journaux d'ailleurs ne se cachent plus de nous expliquer que les militants de la place Maïdan à Kiev arrivent tous jour par jour de quart depuis Lvov, qui sont ces régions sous perfusion, sous tutelle, sous influence américano-polonaise. Donc la partie ne me paraît pas encore totalement jouée, mais je voudrais essayer de vous donner ce qui me paraît être les cinq raisons pour lesquelles c'est plutôt une bonne idée pour nous, de notre point de vue, une bonne nouvelle que, ma foi, l'Ukraine n'ait pas signé cet acte d'adhésion. La première bonne idée, c'est que tout simplement l'Ukraine, pas plus que la Géorgie, l'Arménie ou la Biélorussie, qui étaient les quatre pays auxquels ça a été proposé, ne doivent faire partie de cette politique de voisinage de l'Union européenne et derrière d'intégration. Ils n'ont rien à faire en Europe. On sait qu'un jour il faudra bien quand même chercher à borner, à limiter, à décrire, à dessiner les contours de cette Europe, de l'adapter à des réalités humaines et géopolitiques, et ceci exclut, me semble-t-il, l'Ukraine. Je vais bien évidemment vexer les plus chauds partisans de l'Ukraine, mais je suis navré de dire que ces pays-là, l'Ukraine inclus, n'ont soit jamais été indépendants, ou ne l'ont été que très marginalement, et n'ont en tout cas jamais été dans la sphère d'influence directe du monde ouest européen. La plus grande orientation vers l'ouest de l'Ukraine a été au 14e et 15e siècle au titre des royaumes polono-lituaniens, et ça n'a pas duré très très longtemps. Le seul pays pour lequel je serais prêt à négocier, parce que moi je suis un type tolérant et vachement ouvert, c'est la Moldavie. Je rappelle que la Moldavie, c'est l'ancienne Bessarabie roumaine, et cette Moldavie est une sorte d'avatar de tout ce qu'on a eu suite au traité de paix des Première et Deuxième Guerres mondiales, et la Moldavie indépendante rattachée dans l'orbite de l'ex-CEI, aujourd'hui l'Union Eurasiatique de la Russie, est contestable. S'agissant de l'Arménie, enfin il faut juste regarder une carte pour l'Arménie, la Géorgie et bien évidemment la Biélorussie, l'Ukraine, je crois que l'affaire est entendue. Donc première bonne raison, c'est que l'Ukraine n'avait pas à s'adosser à l'Union Européenne parce qu'elle ne fait pas partie de cet ensemble-là. La deuxième raison, elle est directement liée à la première, c'est que, par définition, si l'Ukraine n'est pas tournée autant vers l'Ouest qu'on veut nous le faire croire, c'est qu'elle a toujours été dans l'orbite du grand frère russe. Et puis surtout, c'est que chercher à arracher l'Ukraine de la Russie, c'est agacer, si ce n'est agresser la Russie. De la même manière, d'ailleurs, qu'on a dit il y a quelques instants que la région du Kosovo était le berceau de la Serbie, je vous rappelle que c'est sur les bords du Dniepr que les Russes et que les Varegs se sont croisés pour poser les bases du futur État russe. Et puis surtout, on sait très bien que plus proche de nous, si vous citez la phrase de Brzezinski qui est « arracher l'Ukraine à la Russie, elle n'est plus un empire ». Quand on sait que Brzezinski, depuis Carter, continue à être une référence de ce combat homérique, historique, entre le Heartland et le Rimland, que maîtrisent tous ceux qui connaissent leurs basiques de géopolitique, on voit bien que arracher l'Ukraine de l'orbite russe, c'est attaquer, provoquer, agresser directement Moscou. Et je ne suis pas certain que notre pays, mais aussi l'Allemagne, mais aussi d'autres pays, ont intérêt à ce point à provoquer la Russie. On ne sait pas ce qu'il adviendra de l'Union européenne en 2016-2017. On aura l'occasion de parler tout à l'heure du coup qui peut arriver depuis Londres. Je rappelle qu'il y a un référendum prévu avant 2017 sur la sortie ou pas de l'Angleterre de l'Union européenne. On ne sait pas dans quel état sera l'Union européenne, perclue de dettes et de nanisme politique. Il n'est pas dit que nous n'ayons pas intérêt à ne pas nous fâcher tout de suite avec les Russes. La troisième raison est plus subtile, me semble-t-il, et je ne suis pas certain que
tous les pays européens aient à ce point cherché à faire rentrer l'Ukraine dans la politique de voisinage. Je suis même certain du contraire. Quelques indices. Premièrement, vous avez bien vu qu'on est à 6 mois des élections européennes, et je ne suis pas certain que expliquer que maintenant qu'on vient de finir de payer pour Pierre, Paul, Jacques, maintenant il va falloir payer pour l'Ukraine, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, puisqu'on leur proposait pas grand-chose, mais dans l'inconscient collectif, je ne suis pas certain que ça aurait été très vendeur, comme on dit. Deuxièmement, vous avez vu que s'il y a bien 3 pays, même 4, qui ont été très discrets dans cette affaire, c'est la France, l'Allemagne, l'Italie et la Grande-Bretagne. La France, l'Allemagne et l'Italie sont les 3 premiers investisseurs en Russie, sont les 3 premiers partenaires commerciaux de la Russie. Vous avez peut-être vu d'ailleurs que une semaine après cette non-signature, Vladimir Poutine était en visite officielle à Rome, et fait un passage après au Vatican, j'y reviendrai. Et à cette occasion-là, Italiens et Russes ont signé la création d'un fonds d'investissement commun doté d'1 milliard d'euros pour investir sur l'ingénierie, l'industrie automobile, l'aérospatiale, l'agriculture, plus tout un système de d'accords préférentiels, d'accords culturels entre l'Ermitage et la place Saint-Marc, enfin bref. Donc il y a effectivement des liens qui sont très forts entre ces pays du premier cercle européen et la Russie. Vous avez vu que le partenariat de l'Union européenne a effectivement donné lieu à des oppositions au sein des pays européens, certains disant oui, le partenariat est une avancée, une introduction vers une future adhésion, d'autres disant, autour de l'Allemagne, qui en a quand même marre de payer, non, le partenariat, c'est un truc très bien, on va faire des trucs formidables, mais ça veut dire que justement, on va pas adhérer. L'Allemagne qui a quand même en tête, enfin Madame Merkel qui a quand même en tête de reconduire l'idée de partenariat pour les Turcs. Donc si on explique que les partenariats c'est la première étape avant l'adhésion, on peut plus tenir le même discours. Et puis surtout, les Allemands ont une volonté très limitée d'énerver les Russes. En revanche, les pays de l'Est de l'Europe, Pologne, Lituanie, mais aussi la Suède, et j'y reviendrai, eux sont beaucoup plus perméables à des discours, notamment américains, et eux vont allègrement pour des raisons géopolitique, s'agissant de la Pologne et de la Lituanie, mais et plus politique pour la Suède, vont de franchir le pas jusqu'aux démarches d'adhésion. Et si vous voulez, le camouflet, me semble-t-il, que l'Union européenne vient de recevoir, est en fait un camouflet directement adressé à ces petits pays qui ont cherché, à l'occasion de ce sommet, à dicter sa politique aux grands pays d'Europe. Et je ne suis pas certain qu'en leur fort intérieur, Français, Anglais, Allemands et Italiens ne soient pas ravis que Suédois, Polonais et Lituaniens soient ainsi fessés par l'ogre russe et remettant un peu l'église au milieu du village. Si on considère par ailleurs que les pays qui étaient les plus ardents pour obtenir ces partenariats, c'était la Pologne, la Lituanie qui vise l'Ukraine pour les raisons que j'ai indiquées, et la Roumanie, parce que la Roumanie vise la Moldavie. Je rappelle par ailleurs que Pologne et Moldavie, ce sont aussi les 2 pays qui vont accueillir les dispositifs de boucliers antimissiles qui déplaient tant aux Russes, CQFD.
Je voudrais juste confirmer effectivement que quand on entendait nos hommes politiques, contrairement à la révolution orange, on entendait quand même ce petit discours disant attention quand même l'Ukraine, il y a une grande partie de l'Ukraine qui est russophile, argument qui n'avait jamais été employé au moment de la révolution orange. Donc on voit bien que chez nos hommes politiques français et même allemands, on est, je pense, très content de ce qui s'est passé.
Alors Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, va recevoir le boxeur Klitschko en visite officielle quand même.
Oui, ben voilà, mais c'est un peu de diplomatie. Non, mais
moi j'ai plus été frappé par le silence assourdissant de François Hollande que par les commentaires des uns et des autres. À l'évidence, nous ne sommes pas montés au créneau. Vous savez, nous, quand on monte au créneau, ça se voit. Comme on n'a rien à vendre et qu'on n'a rien, du coup, on fait beaucoup de bruit, mais là, on n'a rien fait du tout. Je me permets de faire une petite incidente concernant la Suède, puisque du coup, j'ai constaté que dans cette affaire, la Suède avait été vraiment en première ligne et on ne l'attendait pas forcément là. Vous avez vu d'ailleurs que la commissaire suédoise Cecilia Malmström a fait une espèce d'exhorte à tous les pays européens disant qu'attention, les élections européennes arrivant, on allait avoir des accès de populisme et que franchement il fallait faire attention. Donc là on est reparti pour la leçon de morale des pays scandinaves. Ce qui est surprenant, c'est que la Suède qui dispose, je pense, dans l'idée commune qu'on s'en fait d'une idée de neutralité absolue, mais la Suède
continue, petit orteil par petit orteil, à rentrer dans l'OTAN. Et figurez-vous que le 14 octobre dernier, le Conseil de l'OTAN a répondu favorablement à la demande du gouvernement suédois de lui reconnaître le droit de participer à la force de réaction de l'OTAN. Je sais pas si vous l'aviez vu. Donc la neutralité de la Suède est en train de s'effilocher tranquillement. Donc d'ailleurs, dès le mois de novembre et décembre, il y a des exercices militaires qui sont planifiés avec l'OTAN, donc sur les territoires de la Pologne et de la Lettonie. Et puis surtout, le Anders Rasmussen, qui est le secrétaire général de l'OTAN, a bien déclaré que cette étape devait renforcer encore plus la relation déjà force qui nous lie. Et aujourd'hui, sur le débat politique interne suédois, la possibilité d'une adhésion pleine et entière de la Suède à l'Alliance est largement préconisée par de plus en plus de responsables de partis. Alors, semble-t-il, la majorité des Suédois reste opposés, mais bien évidemment, tant les politiques que les militaires souhaitent ce rapprochement pour les mêmes raisons que nous.
Si c'était passé en France, ouais.
Que nous, à savoir, c'est que comme les budgets n'existent plus et que notre outil militaire s'étiole, eh bien, sauf à se préparer au vide militaire, il faut donc se raccrocher à l'alliance la plus proche. Et d'ailleurs, le 24 octobre dernier, il y a eu un débat intense à l'Académie royale des sciences sur le thème « La Suède comme vide militaire, l'OTAN est-elle la solution ?» Voilà, je fais cette parenthèse parce que je pense que c'est important que les auditeurs aient ce genre d'informations qu'ils n'ont peut-être pas par ailleurs. Et alors, la cuistrerie et l'impudence des pays nordiques, j'en ai une autre. Figurez-vous que c'est incroyable ce qui se passe à Bruxelles. Évidemment, comme nous, bref. Bon, donc figurez-vous que les dirigeants des associations d'entreprises, écoutez, de défense de 8 pays du nord de l'Europe ont écrit à Monsieur Van Rompuy pour lui demander de plaider pour une plus grande ouverture du marché européen. Et c'est pas si ouvert, donc il faudrait l'ouvrir encore plus. Ce qui est rigolo, c'est de dire, on voudrait imposer, lors du Conseil européen de décembre, qui va avoir lieu en décembre, on voudrait imposer à chaque État membre que, à partir de 2020, il aille acquérir au minimum 25% de son matériel de défense auprès de sources non nationales. C'est-à-dire que ces pays-là qui ont une industrie de défense balbutiante, alors l'Estonie est pas au même niveau que la Suède. Hein. La Suède, il y a une vraie industrie militaire et d'armement.
Oui, oui.
C'est d'ailleurs eux qui ont vendu leurs chasseurs aux Suisses, soit dit en passant.
Oui. Et qui est en partenariat avec les Américains pour leurs chasseurs.
Oui.
Quand même.
Mais et donc on voudrait que l'Union européenne impose le fait qu'un pays désormais comme la France. Qui même si son budget est réduit pour des raisons de bien évidemment de taille dispose quand même de budgets significatifs, qu'on soit obligé d'acheter minimum 25% de nos fournitures ailleurs qu'à nos entreprises. Donc je ne sais pas quelle décision va être adressée à cette supplique.
Donc vous êtes toujours parce qu'il faut qu'on fasse des annonces, mon cher Philippe, vous êtes toujours sur Radio Courtoisie dans les chroniques de la vieille Europe et nous sommes dans l'actualité européenne avec Philippe Christel.
Et donc ma quatrième raison, me semble-t-il, pour laquelle il faut se féliciter, je sais c'est long hein, mais c'est comme ça, de cette décision ukrainienne, c'est que je pense que là encore on a une démonstration par l'absolu de la logique de realpolitik. Ce qui est frappant, c'est de voir que le principal sujet qui a été mis dans la balance pour obtenir une décision aussi structurante que celle dont nous parlons, à savoir l'Ukraine va-t-elle signer la voisinage de l'Union européenne ou rejoindre le projet d'Union eurasiatique de Vladimir Poutine. Ça a été la libération pour raison humanitaire de l'opposante Yulia Tymoshenko qui dépérit dans sa prison de Kharkov. Elle est en train de mourir. C'est ça qu'on nous dit. Elle a une hernie discale. Hein. Donc elle a une. Bon alors, je sais, on peut probablement mourir d'une hernie discale. Enfin, en tout cas, je peux vous dire qu'elle a une pêche pas possible, puisqu'en permanence, elle communique avec sa femme, son mari, sa fille, qui transmettent des messages de partout. Bref. Donc, et ce qui est très drôle, c'est que on a cru. Alors. Après, si je suis peut-être un peu en contradiction avec mon point précédent, c'est moi je n'exclus pas quand même que cet élément aussi caricatural et aussi provocant pour les Ukrainiens ait été mis à ce point, notamment par les Allemands, en exergue dans le dossier pour être certain que les Ukrainiens ne le refusent et donc fassent échouer la négociation.
Ah oui, c'est vraiment machiavélique.
Il faut être logique. Entre ma raison 3 et ma raison 4, elles s'opposent un petit peu. Il faut être logique. Et mais ce qui est certain, c'est que on l'a vu sur cette question ukrainienne, on l'a vu il y a un mois avec le président Saakashvili en Géorgie. Enfin, les icônes des révolutions de couleur sont quand même à la baisse, et le soft power à l'américaine semble moins émouvoir qu'avant les consciences de ce pays-là. Ce qui est intéressant quand même, c'est que il y a clairement une erreur de jugement d'une bonne partie de la classe technocratico-politico-diplomatique européenne sur cette question-là. Et j'en veux pour preuve ce qui se passe aujourd'hui en Géorgie. La Géorgie a signé l'accord de voisinage avec l'Union européenne. Puisque la Géorgie est quand même dans la foulée des investissements que les Américains y ont fait. En revanche, la Géorgie vient de changer de président. J'en ai parlé abondamment il y a 4 semaines. Et aujourd'hui, justement, ce nouveau président fait un peu marche arrière par rapport à l'alignement absolu de Saakashvili sur l'Union européenne et sur les États-Unis. Et donc, on assiste à l'émergence d'un courant ultra-conservateur qui est certes porté par l'Église orthodoxe, mais qui est également portée par une partie des élites géorgiennes, et elles veulent, ces élites-là veulent absolument que l'on regarde du côté eurasien. Il y a un des leaders de ce mouvement qui s'appelle Levan Vassadze, a une formule, je trouve, assez saisissante pour expliquer que, évidemment, sur le fond, quand on regarde les systèmes de consommation, de niveau de vie, on est attiré par l'Europe. Mais on sait très bien que c'est un piège. Il plaide, lui, pour ce qu'il appelle l'occidentalisation sélective. Oui pour les routes asphaltées, non à ces droits de l'homme qui ont dévoyé les valeurs familiales. Et je crois que on est trop dedans pour s'en rendre compte, mais dans 10 ans, je pense qu'on se rendra compte à quel point le fait que la France, qui est une nation idéologique par excellence, c'est la nation idéologique, la France, que la France ait adopté le mariage pour tous, je pense que les dégâts en termes diplomatiques sur la projection d'un modèle de société sont sans commune mesure avec ce qu'on avait imaginé. Et que la patrie des droits de l'homme a probablement, alors nous qui y sommes et qui savons que les droits de l'homme sont à géométrie variable, on se désespère du voir que dès que l'on voyage à l'étranger, nos interlocuteurs nous disent « Ah, vous êtes quand même de la France, du pays des droits de l'homme, etc. » Là, quand même, on sent que le pays des droits de l'homme a fauté, et que les droits de l'homme ne sont pas vraiment ceux qu'on attendait. Il y avait dans la presse géorgienne une lettre ouverte co-signée par une trentaine de personnalités autour de ce Levan Vassadze qui expliquait leur effroi devant ces sociétés occidentales qui veulent, je cite, légaliser la pédophilie, l'inceste, le mariage unisexe, et qui osent montrer, je cite, des relations sexuelles entre humains et animaux. Je ne sais pas où ils ont vu ça, mais j'imagine qu'ils ont dû voir ça. Bref, il y a, je crois, un auto-aveuglement sur ce qu'est notre pouvoir d'influence ou notre soft power, pour reprendre l'expression consacrée entre hard power et soft power. Donc voilà ce que je voulais vous dire concernant l'Ukraine. Je ne peux pas m'empêcher de mettre cette décision en parallèle d'autres de deux autres événements. Le premier, c'est que peu de temps qui plaiderait pour le fait que les grands pays n'ont pas vraiment poussé à la roue pour que l'Ukraine sorte de l'orbite russe. Mais je peux me tromper. Premièrement, c'est que quelques jours après, on a eu la signature de cet accord un peu à l'arraché avec l'Iran. Je ne voudrais pas aller jusqu'à faire un rapprochement qui est, puisque nous avons la signature que nous voulons ici, nous vous aiderons à avoir la signature que vous voulez là-bas. Mais je ne peux pas l'exclure. La deuxième chose, c'est que à l'autre bout du monde, vous avez dû assister à cette très grave montée de tension en mer de Chine. Je vais faire très court parce que mais vous savez qu'il y a de longue date, il y a des contentieux maritimes que la Chine entretient avec ses principaux voisins, c'est-à-dire Taïwan, bien évidemment, puisqu'il s'agit un jour de récupérer l'île rebelle, mais bien également les Philippines, le Japon et la Corée du Sud. Et donc il y a un archipel qui est centre de toutes les convoitises, qui s'appelle les îles Senkaku par les Japonais et Diaoyu pour les Chinois, mais c'est les mêmes. Et donc elles sont japonaises, revendiquées par les Chinois. Les Japonais envoient de temps en temps un dragueur de mine histoire de vérifier que tout va bien. Les Chinois envoient des pêcheurs qui se font raccompagner par les dragueurs de mine japonais. Enfin, vous imaginez l'ambiance. Et là, la Chine a envoyé des chasseurs bombardiers et a dit à partir de maintenant, j'impose une zone de sécurité aérienne et donc je demande à toutes les compagnies civiles de la région de me signaler à moi, État chinois, quand je passe dans cette région puisque je considère que c'est chez moi. Moyennant quoi, les Américains ont réagi très très vite. Et je pense qu'ils n'avaient pas le choix, sauf à désespérer, non pas Billancourt, mais Tokyo. Enfin, Tokyo, Séoul, Manille, Enko.
Oui.
En disant, écoutez, premièrement, nous, ça fait déjà 3 fois qu'on passe au-dessus, vous nous avez pas vu, donc votre zone de sécurisation, de façon technologiquement, vous pouvez pas la tenir. Donc ça, ça a vexé les Chinois. Mais surtout, ils ont envoyé deux chasseurs-bombardiers pour montrer qu'on est là. Et on est là vite quand il le faut. Aujourd'hui, quand on écoute, moi je suis pas spécialiste, mais quand on écoute les experts qui nous décrivent la réalité de ce bras de fer, pour le coup, c'est un peu comme pour le Kosovo tout à l'heure, personne ne voit bien comment ça peut avancer autrement que par un conflit. Alors pas pour tout de suite, mais on connaît le réarmement de Taïwan. Le Japon, notamment avec le dernier gouvernement Abe, vient de prendre des décisions très fortes de réarmement en termes de budget, mais également en termes de législatif, puisqu'on va s'autoriser demain à être en capacité de faire ce qu'on nous avait interdit de faire, ce que MacArthur en gros avait interdit de faire dans la Constitution depuis 45 et l'atomisation. Vous savez, le camp du bien qui a atomisé le camp du mal avec des bombes atomiques sur des civils. Bref, passons. Ce qui est intéressant, c'est que les Américains sont coincés aux entournures. Là, ils ont réagi très vite parce que ils peuvent pas faire autrement. Mais pour la première fois, les Américains mollissent, dirais-je. Premièrement, parce que ils se gardent bien de se prononcer sur le fond de la dispute, sur savoir à qui appartiennent les trois cailloux. Même si le traité d'alliance américano-japonais couvre bien les Senkaku, c'est-à-dire que le territoire japonais couvert par le traité d'alliance inclut les îles en question. Mais premièrement, les États-Unis ont demandé aux compagnies aériennes américaines à la prudence en se pliant aux règles chinoises. Ça a quand même moyennement amusé les Américains. Et puis, de toute façon, au moment où Washington recentre sa diplomatie sur l'Asie, il va lui falloir donner des gages politiques et militaires tant au Japon qu'à la Chine. Et ça, les Japonais n'y sont pas prêts. Les Japonais n'y sont pas prêts. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que entre le Moyen-Orient et ça, et cela, on va pas aller aussi vite probablement qu'on le souhaiterait, mais à l'évidence, la réorientation des efforts majeurs américains se fait quand même au détriment du théâtre européen, et raison de plus pour ne pas frustrer ou embêter la Russie, qui est en vrai retour stratégique en ce moment. L'année 2013 aura vraiment été l'année de la Russie. On le disait tout à l'heure, ce qui s'est passé avec les accords de Dayton en 99 sur la Serbie serait impensable aujourd'hui. D'ailleurs, on a parlé au sujet de l'accord sur la Syrie d'un Dayton à deux, puisque vous avez bien vu, et on l'avait largement commenté il y a deux émissions maintenant, que Lavrov et Kerry avaient fait à peu près le job tout seul, sans inviter la France, pourtant si savante sur son Orient compliqué. Derrière, c'est l'affaire de l'Iran. Maintenant, c'est l'affaire de l'Ukraine. À noter également que la Russie est depuis longtemps particulièrement en vigilance sur ce fameux néo-ottomanisme dont on a parlé. Et je finirai sur ce point, puisque j'ai mentionné la visite de Poutine au Vatican, à Rome, en Italie, pour dire qu'il est derrière aller au Vatican. Il y était le 25 novembre. Avec le pape François, ils ont évoqué les relations entre catholiques et orthodoxes, la situation dégradée des chrétiens d'Iran, des chrétiens d'Orient. Je rappelle que le 5 septembre, déjà, le pape avait sollicité l'aide de Poutine sur la situation. Et à l'évidence, la Russie accepte de renouer avec son rôle traditionnel de protectrice des chrétiens d'Orient, responsabilité que, accessoirement, nous avons, Europe de l'Ouest en général et France en particulier, totalement abandonnée et abdiquée.
Oui, ça fait quand même longtemps, hein, oui.
Le Kremlin lève le doigt pour assurer ce devoir moral pour lequel le Vatican le sollicite. Et au-delà de ce devoir moral, on voit bien qu'en creux se pose la question de la défense des valeurs chrétiennes dans le monde moderne, parce que c'est ça qui se passe et c'est ça qu'on retrouve dans les oppositions dont j'ai parlé, que ce soit en Ukraine ou en Géorgie. Et on sait que, à défaut d'avoir beaucoup de divisions, le Vatican a de bons diplomates. On peut se poser quand même la question, combien de temps faudra-t-il encore pour que les principaux dirigeants des pays d'Europe occidentale comprennent ce que les diplomates du Vatican ont compris bien avant eux? Et puis pour terminer sur ce retour en puissance de la Russie, écoutez, je voulais quand même vous dire que Vladimir Poutine a fait plus fort que Chuck Norris.
Ouais, alors, vous êtes Norris, toujours
sur Radio Courtoisie, on n'est pas passé sur Fun Radio. Donc Chuck Norris, c'est un peu daté en plus. Hein.
C'est
un acteur américain, c'est celui qui combat Bruce Lee dans La Fureur du Dragon. Et alors, Chuck Norris,
c'est pour ça qu'on est pour Bruce Lee.
C'est le spécialiste mondial du taekwondo, hein, parce qu'il a la ceinture noire 8e dan de taekwondo. Eh bien, figurez-vous que ça y est, les Coréens ont remis à Vladimir Poutine le 9e dan de ceinture noire de taekwondo.
Bravo.
Ah oui. Voilà. Alors, déjà, le magazine Forbes avait hissé Poutine au rang de personnalité la plus puissante du monde, mais alors maintenant, il est plus fort que le plus célèbre des acteurs de films d'action, Chuck Norris. Alors, je vous rassure, hein, Poutine ne fait pas de taekwondo, il fait du sambo, qui est une sorte de judo russe. C'est plutôt pour rendre hommage aux efforts faits par la ville de Saint-Pétersbourg, mais enfin en matière de promotion du taekwondo. Mais enfin, ce qui est assez drôle, c'est que il y a bien effectivement derrière les coups de maître diplomatiques, il y a un petit clin d'œil. Mais la Russie, vous le savez, la Russie croit au multilatéralisme. Le multilatéralisme, c'est l'ONU. L'ONU, c'est un secrétaire général coréen qui s'appelle Ban Ki-moon, qui en juin dernier a reçu la ceinture noire 10e dan. Donc Ban Ki-moon est quand même plus fort que Vladimir Poutine,
plus fort que Poutine
en taekwondo.
Là, tu vois, je comprends son poste maintenant, c'est normal.
Et voilà. Ouais. Alors peut-être rapidement je vois que j'avais encore préparé beaucoup plus que ce qu'il fallait, mais c'est pas grave. Rapidement pour passer en revue, et je vais essayer de faire ça à chacun de nos rendez-vous, un certain nombre de rendez-vous électoraux. Il y en a évidemment beaucoup dans l'ensemble des pays de la sphère européenne en 4 semaines. Je vais en balayer rapidement quelques-uns. Le premier, je passe très vite, mais on a parlé de la Serbie. Vous avez vu qu'en Croatie, les Croates ont approuvé la révision de la Constitution pour empêcher le mariage homosexuel. Donc voilà une bonne chose de fait de ce côté-ci de l'Europe. Ce que je voulais, c'était peut-être vous donner quelques éléments qui montrent que partout, de manière imperceptible, les mouvements de droite nationale, droite conservatrice, droite nationale populaire progressent. C'était ce que j'avais cherché à démontrer la dernière fois. Là encore, c'était moins riche, mais élection cantonale de 2013 à Genève, qui l'eût cru, ça y est, pour la première fois, le mouvement citoyen genevois obtient des sièges. Je suis allé ausculter pour vous, et rien que pour vous, les élections régionales et communales au Danemark. Faut quand même le faire, hein. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'a fait.
Non, je comprends.
Et donc, je vous confirme que le Parti du Peuple danois est le seul parti qui soit maintient ses sièges, soit augmente imperceptiblement. C'est pas un raz-de-marée, mais ça continue à construire. Non, la plus belle opération, ça a été les élections régionales en Slovaquie, où, lors desquelles, la région de Banská Bystrica, qui est au centre du pays, hein, vous voyez bien où c'est, j'imagine.
Très bien.
Donc a élu comme président un garçon qui s'appelle Marian Kotleba, mais qui est le dirigeant du Parti populaire Notre Slovaquie, qui est une formation de droite populaire. Alors, d'après Le Monde, c'est d'extrême droite xénophobe. Donc vous voyez à peu près ce que c'est.
Hein. Ouais.
Bon, donc c'est des gens qui veulent être tranquilles chez eux, en gros. Et pas payer trop d'impôts, à peu près. Ce qui est certain, c'est que ce gars-là donc a été élu avec 55% des suffrages. Son thème de campagne, c'est évidemment à la fois la corruption du personnel politique slovaque, mais aussi le harcèlement dont sont victimes les autochtones du fait de la population rome. Et donc c'est ça qui a ému bien évidemment la communauté internationale. Alors on peut pas faire des sanctions parce qu'on aurait bien fait des sanctions contre la Slovaquie, mais c'est qu'une région dont tout le monde se fout objectivement. Donc c'est quand même très difficile, très compliqué. Alors monsieur Kotletba, donc son programme, c'est de tenter de réaliser l'enrôlement obligatoire des Roms sans emploi dans les travaux publics pour les faire travailler. Il est désireux d'en finir avec, je cite, c'est pas moi, c'est lui, le parasitisme tzigane. Je lui laisse la responsabilité de ses propos. Enfin, en tout cas, voilà une élection qui a largement surpris, vous l'imaginez. Et puis, en prévision d'autres scrutins peut-être, vous dire qu'il faudra étudier de près la situation en Italie. Puisque maintenant la rupture est consommée entre les membres du parti de Berlusconi qui ont souhaité rester au sein du gouvernement de Enrico Letta et le Cavalier, et qui s'est donc retrouvé isolé. Donc il y a toujours des menaces d'élections anticipées en Italie parce que c'est quand même toujours la pétodière. Accessoirement, la réforme électorale, celle qui donnait à la liste arrivée en tête un bonus qui lui permettait d'avoir la majorité absolue, cette disposition a été invalidée par la cour italienne. Donc cette réforme, c'était il y a 7 ans, hein, donc c'est un peu lent, mais ça finit par être invalidé. Et donc du coup, on parle toujours de possibles élections anticipées. Les sondages donnent toujours les différents partis de centre droit réunis vainqueurs contre la gauche, sauf que cette union aujourd'hui des partis de peuple droit, on ne la connaît pas, et donc il y aura recomposition à droite en Italie.
Il vous reste encore quelques minutes. Hein,
Alors, s'il me reste encore quelques minutes, qu'est-ce que je vais vous raconter ? Je voulais vous parler de langue du Royaume-Uni, mais je ne vais pas réussir à le faire en quelques minutes. Donc, je ne vais pas faire ça.
Non, mais alors, faites autre chose. Mais
je vais vous donner des bonnes nouvelles de technologie, parce que c'est important, la technologie. Est-ce que vous avez vu que le Yotaphone... Est-ce que vous avez votre Yotaphone ?
Ah non, mais il faudra Pascal expliquer.
Vous avez votre Yotaphone ? Le Yotaphone, c'est le premier smartphone russe.
Ah, d'accord.
Figurez-vous, c'est très important parce que vous connaissez le Laïus comme moi, la Russie, c'est très bien, c'est beaucoup de croissance, c'est beaucoup de capitaux, mais c'est la rente. C'est la rente pétrolière et gazière, c'est l'incapacité de construire des systèmes manufacturiers, malgré de beaux restes dans les domaines scientifiques, c'est zéro innovation, etc., etc. Eh bien écoutez, la semaine dernière, on a donc lancé en grande pompe, avec complicité du Premier ministre Medvedev, donc on a lancé le Yotaphone. Le Yotaphone, c'est quoi ? C'est un smartphone, mais... c'est assez drôle, c'est qu'il a une spécificité que personne n'a. Alors c'est les gens qui n'ont pas de smartphone auront du mal à voir de quoi je parle, mais c'est que le Yotaphone a en permanence au verso, donc il a son écran tactile en couleur, hein, sans problème, et au verso, il a un écran noir et blanc qui est allumé en permanence, même quand l'appareil est en veille. Et alors, en gros... Le gars qui vend ça explique que, en fait, les utilisateurs de portables réactivent leur appareil en moyenne 150 fois par jour, soit une grosse dépense d'énergie et de temps. Et du coup, avec cet écran, ils ont en permanence un certain nombre d'éléments d'informations clés qui leur permettent de se servir de leur smartphone sans être obligés de le reconnecter ou de l'allumer, etc. Enfin, technologiquement, il paraît que c'est très bien. Donc cet écran supplémentaire, je lis la notice, permet à l'utilisateur d'afficher l'heure, son agenda, ses messages et bien d'autres informations sans avoir à le réactiver. Et alors même Le Monde qui en a parlé trouve que c'est assez malin. Donc, pour que Le Monde dise un truc positif de la Russie et que ce soit pas sur le joueur d'échecs fou là qui est parti, c'est donc extraordinaire. Donc c'est de conception russe, c'est assemblé en Chine évidemment, avec des composants fabriqués au Japon et à Taïwan, mais c'est vraiment à marquer d'une croix rouge sur le calendrier, parce que c'est la première fois qu'il y a une vraie innovation et un système de production qui est semble-t-il efficace.
On verra bien si... Bon, enfin, faut pas trop se moquer. Non, mais faut pas trop se moquer, parce que les Européens ne font plus de téléphone. C'est avec Nokia, on vient de valider l'achat de Nokia par Microsoft.
Donc, oui. Et nous avions d'ailleurs un débat, je ne sais plus quelle émission, sur toutes ces fameuses technologies de souveraineté. Bah, au moins, c'est la même chose avec le GPS qui s'appelle Galileo en Europe, et les Russes ont le leur qui s'appelle le GLONASS. Et donc, il y a chez les Russes, en tout cas, une volonté de se doter d'un minimum de structure, d'infrastructure autochtone ou autonome. Alors évidemment, le système d'exploitation sur le Yotaphone, c'est sous Android, hein, donc c'est Google qui fait ça. Donc c'est des marques, hein, c'est pas des mots anglais. Android, Google, c'est des marques. Je dis ça pour
les auditeurs.
Alors sinon, dans les nouvelles intéressantes. Vous avez peut-être vu que notre bien-aimé Premier ministre a enfin accepté, suite au feu vert du Conseil d'État, l'idée que des mercenaires français seront autorisés à embarquer à bord des bateaux battant pavillon français. Donc ça c'est une grande nouvelle pour deux raisons. La première, c'est que comme on n'a plus de marins, ni de corvettes, ni de ceci, cela, qu'on envoie dans le golfe d'Aden, et que quand on en envoie un, après il y a 8 mois de carénage pour enlever les poulpes, donc il se passe plus rien pendant les 8 mois où il est rentré à Toulon. Donc c'est quand même plus pratique pour les navires, parce qu'ils continuent à faire du commerce. La deuxième chose, c'est que on pourrait considérer que c'est la première faille dans le système des sociétés militaires privées. On a déjà eu à cette antenne, avec différents intervenants, des échanges sur pourquoi la France est à ce point en retard sur l'accès aux sociétés militaires privées, pour des raisons principalement idéologiques d'ailleurs. Ben là, semble-t-il, le commerce l'a emporté sur l'idéologie, puisque les bateaux, ça commence par les bateaux, pourront embarquer des mercenaires, et des mercenaires français qui auront donc le droit de se déclarer comme tels et de payer leurs impôts comme mercenaires. Je ne sais pas quel sera le taux marginal.
Il vous reste une petite minute à peu près.
Une petite minute peut-être pour vous dire que on avait évoqué le rôle assez néfaste, je crois, de Laurent Fabius dans les négociations avec l'Iran.
Oh, je suis un peu étonné là.
Néfaste au sens où Fabius a fait le monsieur plus des négociations, et en jouant un rôle qui aurait dû être tenu par d'autres. On va en voir, je pense, les conséquences, puisque derrière l'accord, il y a l'ouverture, ou plutôt la réouverture de liens commerciaux qui sont importants, et notamment, il y a un secteur qui est important à surveiller, qui est le secteur automobile. D'ailleurs, la semaine dernière, il y avait le salon de l'automobile de Téhéran. Et on ne parle que d'une seule chose, c'est le bras de fer entre les constructeurs français et américains. Les constructeurs français étaient très largement positionnés en Iran, puisque l'Iran était en 2011 le deuxième marché de Peugeot après la France. Peugeot, vous savez, c'est une boîte qui va pas très bien, hein, mais donc qui a été obligée de mettre une croix sur ce marché-là du fait de son alliance avec General Motors. Et Renault, de son côté, avait vendu jusqu'en 2012 près de 100 000 bagnoles plutôt en pièces détachées comme Peugeot. Ces deux marchés ont dû se tarir, sauf que maintenant qu'ils sont réouverts, la France est le vilain petit canard. General Motors et compagnie, Chevrolet et autres, et Chrysler n'ont pas attendu l'accord, puisque ça fait un an que les Américains discutent avec les Iraniens. Et donc aujourd'hui, les places vont être prises. Et bon courage à Renault et à PSA pour retrouver leur volume d'avant. Je ne suis pas certain que Monsieur Fabius, qui se targue de faire une diplomatie économique, ait eu des résultats concluants. Ceux pour qui il roule lui en seront peut-être gré davantage.
Merci à vous Philippe, on est super en retard, on se retrouve dans 4 semaines, vous retrouvez notre rediffusion jeudi, et vous nous retrouvez sur le site vieilleurope.fr ou sur radiocourtoisie.com. Bonne soirée sur Radio Courtoisie.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, that
happy, silly chaps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey,
always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
It's available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. I can change his mantle within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? Never make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.